Bonjour à toutes et à tous, il est quasiment 30 et je vois que de toute façon la salle est pleine, on peut plus. Donc je suis très heureux au nom de la Galerica de vous accueillir pour ce premier rendez-vous de la saison des Entre Midi et Sciences. Vous n'hésitez pas à prendre le programme. On entame notre 10e saison des Entre Midi et Sciences et je vois que finalement ce rendez-vous a un grand succès. Et merci en tout cas d'être là. Le rendez-vous d'aujourd'hui s'inscrit dans les animations de la Fête de la Science autour de la thématique cette année de l'intelligence. Et si vous avez fait attention à la campagne d'affichage qu'on peut apercevoir en ville, il y a entre parenthèses un S à la fin de l'intelligence, puisque nous parlerons d'intelligence animale, d'intelligence végétale, alors je mets quelques guillemets, même d'intelligence humaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'intelligence artificielle. C'est un sujet pour les habitués des Entre Midi et Sciences que nous avons déjà abordé à travers des angles différents. Aujourd'hui, nous avons choisi un angle nouveau, c'est-à-dire parler d'éthique. Et donc, pour en parler, nous avons la chance d'avoir, je ne vais pas écorcher votre nom à chaque fois, donc de Lamia Béra. Donc, vous êtes professeur des universités holistiques. Alors, je vais vous donner à quoi correspond cet horrible acronyme, et pour ne pas me tromper. Donc, c'est le laboratoire d'informatique, système, traitement de l'information et de la connaissance. Et donc, vous êtes basé à l'Université de Savoie-Mont-Blanc, mais Annecy, côté Haute-Savoie. En tout cas, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour échanger, débattre sur ce sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas les Entre Midi et Sciences, donc le format, c'est une heure et qui sera divisé en deux temps. La première partie sera consacrée complètement à vous pour nous présenter le cadre de ce sujet et les problématiques. Et puis nous garderons la demi-heure suivante justement pour vous questionner et comme je disais, échanger et surtout débattre si besoin. En tout cas, merci d'être là et sans plus tarder, je vous passe la parole.
Merci beaucoup. Alors, je vais tenter de parler sans micro. Très bien. Donc... voilà, les présentations sont faites. Ça va me faire gagner un peu de temps puisqu'il faut que j'aille assez vite. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui parmi vous. Je suis consciente de l'enjeu qu'il y a quand on parle d'intelligence artificielle et d'éthique. J'espère pouvoir être vous intéresser par quelque chose qui me passionne actuellement et qui est donc justement la prise en compte de l'éthique quand on utilise l'intelligence artificielle est dans un domaine, particulier, mais qui a été beaucoup leader dans les avancées technologiques, c'est le secteur industriel. Donc là, pour remonter un peu l'histoire, ce qu'a connu l'humain, c'est un passage successivement de la machine à vapeur, où déjà c'était un grand progrès, puisqu'il y avait une machine qui pouvait faire des choses. Puis on est passé à une massification de la production, industrie de masse. Tout le monde avait droit à une Ford pourvu qu'elle soit noire. C'était donc la fameuse doctrine de l'industrie, de cette production de masse. Petit à petit, les années 2000, on a vu arriver l'ordinateur, l'informatique. Déjà, une autre grand progrès pour l'humain. Donc tout ce qu'a fait l'industrie, on l'a vu aussi dans d'autres secteurs. Puis petit à petit, on a commencé à parler de intelligence artificielle à partir de ces fameux systèmes connectés. Pour certains, l'intelligence artificielle existe depuis toujours, mais pour d'autres, ça sera tout ce qu'on connaît aujourd'hui et en particulier quelque chose sur laquelle on reviendra et qui répond à toutes nos questions pourvu qu'on les lui pose. Petit retour en arrière à partir des années 2020 qui était de dire attention et à l'humain quand même par rapport à l'intelligence artificielle, comment pouvons-nous le remettre dans la boucle? Donc voilà, ça c'est juste pour dire que l'industrie a drainé pas mal d'avancées, mais qu'à toute période de la vie, il y a eu des progrès et il y a eu des avancées. Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, il fut un temps, c'était juste la machine à vapeur ou la mécanique. Alors, quel est le constat de cette fameuse industrie 4.0, industrie du futur, les robots qui font tout, qui fabriquent ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on pourrait la résumer ses spécificités? Eh bien, c'est que là, il y a des technologies, il y a de l'intelligence artificielle, et bien les systèmes sont automatisés, et puis petit à petit, ils se transforment en systèmes connectés, et s'ils sont connectés, ils deviennent autonomes et intelligents. Donc, ça veut dire qu'ils savent faire sans nous. Alors, ça veut dire quoi? Pourquoi on aime bien qu'ils fassent sans nous? Parce qu'ils optimisent les performances. Ils vont plus vite, ils font pas d'erreurs, ils font des choses incroyables que l'humain ne faisait pas. Et donc, on assiste à leur expansion dans l'industrie. Et alors, qu'est-ce qui fait aussi qu'on se pose des questions? C'est que ça va tellement vite par rapport aux autres progrès que j'ai mentionnés que l'humain a du mal par moment à suivre. On est là fasciné par ce qu'on peut faire, on développe des algorithmes, on voit ce que ça fait, et puis après on se dit oui, mais où j'en suis? Voilà donc le constat qui fait que on commence à se dire oui, mais l'éthique, c'est peut-être quelque chose qui peut nous protéger de ces développements, sans enlever tous les avantages qu'il y a. Alors, quelques visions des grands industriels. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus en introduisant de plus en plus d'autonomie dans leur système de numérique? Eh bien, on voit des robots qui peuvent tout faire et on voit des produits qui sont au-delà de toutes les performances. On a découvert la Tesla, on a découvert le téléphone, et donc de plus en plus de fonctionnalités qui sont possibles par cette introduction de l'IA. Il y a aussi des choses qui touchent plus directement l'humain. On connaît le voice speaking. L'opérateur met un casque et c'est le casque qui lui dit tout ce qu'il a à faire. Donc, alors il est complètement autonome. Le casque ne se trompe pas, mais il est complètement aussi isolé. Il y a aussi ces fameux exosquelettes. Alors l'idée est bonne au départ, c'est qu'on est complètement soutenu dans toutes les opérations que l'on fait, mais en attendant, on est complètement tracé dans toutes les opérations que l'on fait par rapport aux données. Donc voilà, il y a toujours le « mais » ou le « jusqu'où on va ». Mais ça, c'est donc quelque chose qui aujourd'hui est bien établi. On a aussi de l'autonomie. Alors là, ça devient intéressant, c'est que c'est de l'autonomie décisionnelle. C'est pas juste je fais, mais je décide aussi de ce que je peux faire. Et donc, c'est ce qu'on appelle aussi de tout ce qui est la cobotique et la robotique mobile, les robots. Les robots sont programmés pour prendre des décisions par rapport à ce qu'ils rencontrent. Il y a donc aussi des laboratoires qui travaillent en compagnie d'entreprises pour pouvoir développer des solutions encore de plus en plus performantes. Alors oui, l'industrie, et en l'occurrence automobile et puis plus tard aéronautique, a été à l'origine de pas mal d'avancées. Mais aujourd'hui, ces avancées-là, on les voit dans tous les secteurs. On peut voir maintenant des drones qui sont là pour sécuriser les usines et autres endroits. On peut voir des robots à même de faire pas mal de prouesses, quitte à ce qu'on les, de temps en temps, confonde avec des humains. On voit aussi que des robots peuvent nous aider, voilà, donc tâches ménagères, tout ça c'est rentré dans les mœurs progressivement, mais de manière assez rapide. Et grâce à quoi? En un mot, si on devait dire, mais toutes ces avancées, elles sont dues à quoi? Elles sont dues à une base de données et un algorithme. Et plus le matériel physique nous permet de faire des calculs, plus on ira loin dans ce qu'on appelle les apprentissages ou le fameux machine learning. Quelque chose aussi qui est assez impressionnant, en tout cas pour moi, c'est ce que peut faire la médecine aujourd'hui. Alors, on sauve des vies, oui, mais petit à petit, ben voilà, c'est plus le chirurgien qui opère. Le chirurgien regarde et c'est le robot qui opère. Ce sera plus le médecin qui sera le médecin, mais le robot qui sera le médecin. Et en attendant, je capitalise toutes les données que j'ai, puisque c'est moi qui fais toutes ces informations, moi, robot. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en constant changement. Et puis on ne peut même pas dire, oui, mais ça, il y a 2 ans, c'était comme ça, et dans 2 ans, ça sera pareil. Non, on peut dire actuellement, voilà où on en est, voilà les tendances. Et aujourd'hui, on parle bel et bien de médecine 4.0, donc bien augmentée par l'apport de l'IA. Alors, pour revenir aussi à des choses qui nous... Donc là, c'est pas utile de tout lire, hein, mais c'est l'idée de dire on peut même aller jusqu'à se dispenser de l'humain. Ben, pourquoi pas? Ben, on est écolo, eh ben, on va éteindre la lumière et on laisse les robots faire dans les usines. Donc, tout va bien. C'est bien. Double gain. Plus d'employés, de l'écologie et les robots qui décident. Donc, c'est voilà. Et on appelle ça une avancée. Techniquement, peut-être, mais on peut quand même se dire, Et qu'est-ce qu'on fait, nous, pendant ce temps? Et puis, si ça, jamais il se passait quelque chose, quand tout va bien, tout va bien. Mais si jamais un bug dans un algo, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, c'est ça l'idée. Mais là, on y va. Et, donc, à commencer par le fabricant de Tesla, qui a bien lancé les... et qui a bien poussé ce genre de choses. Et puis, autres usines. Et puis, bien sûr, on va parler du petit dernier. Bon, maintenant, il a grandi. Il est indispensable. Il est chez nous. Il est partout. C'est ChatGPT qui répond. Alors, il se définit par des solutions pour accompagner tout le monde dans tous les secteurs. On peut lui demander ce qu'on veut. Alors là, je me la suis jouée un peu scientifique. Hein, j'ai demandé un programme informatique. Mais je peux lui demander aussi qu'est-ce que je peux manger ce soir, selon toi, parce que je suis comme ça. Qu'est-ce que... Voilà. Il y a des étudiants qui m'ont même dit, une fois, madame, vous savez, ChatGPT, c'est mon meilleur conseiller. Je suis amoureux et je ne sais pas comment faire. C'est lui qui est en train de me dire comment je dois aborder le... Voilà. Donc, ça, c'était un exemple qu'il voulait me donner. Et puis, c'est un autre, il m'a dit, mais j'ai demandé à ChatGPT quel serait mon avenir. Voilà, il se demandait, il était marocain, il est marocain, il se demandait s'il devait rester en France ou aller au Maroc. ChatGPT lui a répondu, c'est bien de rester un temps ici et d'aller découvrir le monde. Donc une phrase qui ne veut rien dire, mais il est rentré dedans. Mais lui, il est rentré dedans, il m'a dit, mais oui, s'il m'a dit ça, donc ça veut dire que je commence, mais il a raison. Voilà, donc c'est au-delà de là. Alors, on aime bien dire que c'est l'industrie, voilà, c'est les vilains petits canards, mais finalement, quand même, ils sont... notre société vit un peu la même chose. L'industrie, l'entreprise n'est que le reflet de... Voilà. Donc, bien sûr, l'idée, c'est pas de tout jeter, mais à quoi ça sert et comment je l'utilise? Voilà. C'est... À quoi servait cette intelligence artificielle donc générative, hein, à l'origine, et aujourd'hui, où j'en suis de son utilisation, sans compter tout ce que ça coûte comme énergie. Et puis, il y a autre chose aussi, hein, donc ça, et là, j'aurais fini la partie film. Il y a aussi le transhumanisme. Alors voilà, Neuralink, encore Elon Musk, c'est les puces qu'on intègre qui ont déjà fait des miracles par rapport à certains cas de pathologie, mais qui quand même aussi peuvent nous interroger sur cette quête de l'humain ou de certains qui est... voilà, je vais utiliser les technos et la biologie, je deviens immortel, je ne deviens pas malade, je ne deviens pas, au lieu de vivre l'instant présent avec la vie comme elle est. Bon, donc finalement, qu'est-ce qu'on peut se dire comme ça, sans réfléchir? Après tout, on a bien vu qu'il y avait toujours eu une histoire de progrès. L'humain est là sur Terre pour progresser, pour apprendre. Donc pourquoi s'inquiéter? Et puis alors là, ça tombe bien parce que on a des choses extraordinaires, on a des choses sympas, on a tout sur nos téléphones, on peut regarder ce qu'on veut, on peut commander très vite ce qu'on veut et on l'a tout de suite. Donc, c'est tout bénef sur un certain plan. Et puis alors, on a des performances qui vont au-delà des capacités humaines. Ce que peut faire un robot, jamais un humain ne peut le faire, même si aujourd'hui on tente de le copier et qu'on devient de plus en plus fatigué. Il y a de l'innovation et on en attend, on en mange, hein, de l'innovation. Il y a du gain pour certains, il y a de la rentabilité. Donc, s'il y a de la rentabilité, ben, ça intéresse. Si tout ça, c'était pour qu'on perde de l'argent, je ne pense pas que le monde entier serait aussi impliqué. Et puis, il y a une expression qui n'est pas la mienne, hein, qui dit on troque la complexité humaine et contre la simplicité robotique. En fait, la différence, et ce n'est pas vraiment mon domaine, mais c'est que l'humain, il a déjà... un peu d'émotion et un sens de l'éthique. Et donc, c'est sûr que ça fait plus compliqué. Et donc, l'idée de ces développeurs, c'est de dire simplicité robotique avant tout. Quand on dit robotique, c'est parce que c'est l'image, quand on voit un robot, mais en fait, c'est l'algorithmique, hein, c'est tous ces calculs-là. Hein. Alors, d'accord, tout ça, c'est super, mais quand même, le changement est énorme. Le changement est énorme dans notre manière de vivre, dans nos sociétés, dans notre façon d'appréhender l'autre. Donc, il y a un vrai changement. Alors, on est dedans, on en prend conscience, on en prend grande conscience, petite conscience, mais il y a quand même un changement. Tout va tellement vite, même le temps qui passe de plus en plus vite, qu'on n'a même pas le temps de se poser pour dire, bah, attends, où on en est de l'accélération, où j'en suis de ma version de ce logiciel, où... Voilà. Est-ce que moi, être humain, consommatrice de ces technologies, j'ai digéré ce que je suis en train d'utiliser? Est-ce que j'ai pris le temps? Est-ce que j'ai voulu le faire? Est-ce que j'ai la capacité de le faire? Où est-ce que je vais aller? Puisque maintenant, on a compris le truc, hein, c'est que c'est, voilà, y a un filon, on peut aller de plus en plus loin. Et puis finalement, qui mène ces sociétés-là? Est-ce que c'est le push de ces technos? Ça veut dire que les technos apportent quelque chose et on s'adapte? Ou est-ce que c'est les réglementations qui viennent toujours un peu plus tard et les attentes des sociétés, de la société qui nous mène? Donc là, il y a un vrai débat qui peut y avoir. Alors, je n'ai pas forcément les réponses, hein, à ces questions-là, mais je peux me dire, si je me projette, dans 5 ans, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qu'il en sera de nos sociétés, de nos entreprises, de nos fabrications, etc., de notre médecine et tout sur tous les plans. Si on résume un peu les attentes de nos sociétés, quand même, aujourd'hui, il y a une sensibilisation à ce retour, ou à l'accroissement de la solidarité. On a envie de production de services qui soient solidaires. On a envie, alors, de chaînes logistiques humanitaires, voire de l'économie circulaire, voire que ne plus mettre que juste le profit au centre des débats, notamment par les préoccupations environnementales. On a des industriels qui sont en crise existentielle. Pourquoi? Parce que il y a les enjeux éthiques de ce qu'ils sont en train d'utiliser. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi ils y vont? Eh bien, si tout le monde y va, c'est difficile de dire, ah non, moi, j'utiliserai pas ChatGPT. Non, non. Alors que tous les prestataires, toute la société l'utilise. Et puis on a, et ça c'est quelque chose à laquelle je suis sensible, des jeunes qui sont en quête de sens. Alors on peut dire oui, mais enfin, tout leur est dû, ils se prennent le temps, ils n'acceptent pas les conditions de travail actuellement, mais ils se posent aussi d'autres questions. C'est pourquoi je travaillerai là? À quoi ça me sert de travailler 40 heures par semaine pour ce salaire-là? Est-ce que j'aurai le temps de faire... est-ce que je ne vais pas m'ennuyer, moi, à rester à faire ce genre de produit, etc. Donc, tout ça fait que les industriels qui ont du mal à recruter, eh bien, se posent des questions aussi par rapport à là où ils en sont. On est quand même dans un modèle économique, bon, qui, en étant positif, on va enlever à bout de souffle, on va dire en quête de renouveau. Hein, on le sait bien. Alors, on va laisser le contexte géopolitique, mais il y a quand même aussi l'empreinte environnementale. Il y a cette responsabilité par rapport aux générations qui arrivent. Quand même, ne pas leur laisser tout le bazar, hein, à gérer. Et puis, il y a de tout ça est née cette notion d'impact sociétal en ingénierie. L'ingénieur, d'habitude, ne se pose pas ce genre de questions. Hein. Lui, il est dans son monde. Il fait ses modèles, il cherche vite Internet, hop, il commence à rédiger ces choses. Et eh bien oui, mais maintenant, non. Il est aussi atteint ou touché par cette histoire d'impact. Donc, on parle de qualité de vie au travail, de bien-être des opérateurs, de plaisir, pourquoi pas, ce qui était peut-être un gros mot de mon temps. Maintenant, si on dit « fais-toi plaisir au travail », c'est la condition. Bon, ben ça, voilà, ça devient important. Et puis... éthique. Donc, je l'emploie, hein, régulièrement, puis on y reviendra. Bon, j'aurais compris que je n'ai pas besoin de m'approcher. Et l'humain. Donc, on a dit l'entreprise, on a dit l'IA, on a dit la société, et oui, nous, et l'humain. Eh bien, l'humain, lui, dans les systèmes, qu'est-ce qu'il voit évoluer ses activités? Bon, il est moins en contact avec le physique, ce qui n'est pas... Alors, sur un certain plan, c'est bien, mais en fait, ne rien réaliser par soi-même, c'est quelque chose qui peut être frustrant. Il est plus dans le cognitif et puis il collabore de plus en plus avec le robot, le casque, le Teams, la visio. Donc voilà, c'est aujourd'hui son environnement de travail. Son intervention, elle est de plus en plus délicate, hein, dans les systèmes, puis si son numérique, eh ben, peu en ont la maîtrise. Il ne comprend pas toujours ce qui se passe si les choses ne se passent pas comme elles devraient se passer. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose. Et ça peut mettre ce qu'on appellera aussi en souffrance éthique par rapport à « je fais des choses, mais je ne comprends pas, je ne suis pas sûre d'être d'accord, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? Mais en même temps, je n'ai pas le temps, il faut que je fasse. » Donc, ça veut dire que paradoxalement, ces technologies qui sont vendues pour notre confort à tous les niveaux, on fera mieux les choses, ça sera beaucoup mieux. Attention, elles peuvent prendre de la place au détriment de l'humain. Alors, elles peuvent, ça veut dire que C'est pas fichu, c'est pas qu'il faut failler les jeter à la poubelle, de toute façon on pourra pas, mais c'est faire autrement avec elle. Et puis en plus, on a quelque chose à laquelle qui nous est cher, nous humains, c'est une forme de compétence, de créativité, d'innovation qu'on ne sait pas forcément transmettre à son écran ou à son, même le robot qui est mon meilleur ami, je ne saurais pas le faire. Donc l'humain, globalement, se pose toutes ces questions et cherche à avoir des réponses pour pouvoir donner un sens à ce qu'il est en train d'entreprendre. Alors, côté aussi un peu plus factuel, hein, il y a aussi une fracture numérique. On n'a pas tous accès aux mêmes soins, aux mêmes outils selon les moyens qu'on est prêt à mettre. Les technologies coûtent très cher. On a besoin de se former aussi, donc on n'est pas tous à égalité par rapport à l'usage de ces technologies. Tous les domaines ne sont pas en avance de la même façon. J'ai parlé de l'industrie, oui, pas tous les autres domaines. Et puis, donc, la routine va bien à la programmation, hors routine, les exceptions, on ne sait pas les gérer. C'est là qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a eu des exemples de choix qui ont été faits et où l'IA a fait des bêtises. La fiabilité des informations retournées, donc on croit que l'IA ne se trompe jamais, ce n'est pas vrai. Ça dépend des données d'entrée et de son interprétation de la requête, ce qu'on appelle le prompt. L'exploitation des données, qu'est-ce qu'on est en train de me faire de mes données quand moi je suis aidée par mon exosquelette ou quand moi je consens plein de choses pour très rapidement pour surfer sur ma commande. Et puis, qu'est-ce que je fais des modèles proposés ? Est-ce que c'est pour faire la guerre ? Est-ce que c'est pour exploiter les autres ? Est-ce que c'est pour vraiment mon bien-être de l'humain grand H ? Donc, la question qu'on se pose, et on est un groupe de chercheurs, on n'est pas les seuls, mais dans ce dont je parle ici, c'est finalement, quel futur souhaitons-nous pour ces systèmes, pour cette société, pour nos étudiants, pour nos enfants et pour nous-mêmes, hein ? Donc, et c'est comme ça qu'on travaille sur ce caractère ou cette dimension éthique qui, paradoxalement, sera l'ami de la performance et du bien-être. Parce que l'éthique, ce n'est pas juste des risques d'être très sévère avec soi-même, c'est se prémunir de tout ce qui peut ne pas aller pour encore faire mieux et de mieux en mieux. Alors, donc là, je vais vite passer sur... Ça, c'est un schéma donc, que je dois à deux chercheurs sur le sujet qui disent finalement, il y a trois types de causes qui nous ont menés vers là où on est aujourd'hui. C'est qu'il y a les perturbations de notre environnement. L'environnement dans lequel on est, s'il n'est pas stable, eh bien, ça fait qu'on ait des perturbations. Il y a aussi... la complexité des systèmes. Les systèmes qu'on n'arrive pas à les comprendre. On les conçoit, on est plusieurs à les concevoir, personne ne détient cette compréhension. Compréhension ne veut pas dire forcément contrôle, mais ça veut dire meilleure utilisation. Et puis il y a aussi tout ce qui est attente de la société, des humains, de la... Voilà. Donc tout ça a fait qu'on est en train de faire des systèmes qui tentent de répondre à ces trois types d'informations, et de facteurs, et c'est ça qui fait que aujourd'hui on se retrouve avec un inconfort par moment, puisque on ne sait plus les contrôler ou en prévoir le fonctionnement. Donc ce qu'il faut juste retenir, c'est que c'est pas juste la technologie, c'est la technologie, la société, l'environnement qui fait qu'aujourd'hui, selon nous, il est urgent de se pencher sur l'éthique, parce que la technologie toute seule, elle n'a pas de mémoire, elle n'a pas de conscience, elle n'a rien du tout. C'est nous, comment on l'utilise pour répondre à quoi. Alors, donc l'éthique, et là, petit à petit, je rentre dans le sujet de l'éthique. L'éthique en industrie, dans les entreprises, dans ces secteurs-là, c'est quand même un sujet relativement récent. Il y a encore une... Nous, on y travaille depuis une petite dizaine d'années. Au départ, quand moi, je faisais... ce genre d'exposé, d'abord je les faisais pas, j'en parlais très peu, on me disait mais c'est pas ton travail toi, t'es pas juriste, t'es pas philosophe, t'es pas sociologue, t'es pas psy, voilà, t'es pas ergonome, t'es pas kiné, t'es pas, t'es pas, t'es pas, t'es pas. Non, je suis ingénieure de formation et je suis chercheuse et enseignante. Voilà. Donc, c'est un sujet. Mais par contre, aujourd'hui, on s'en empare de par cette part, malheureusement, par la peur de où est-ce qu'on va par cette utilisation d'IA. Mais qui s'en empare réellement ? Ben, ça, c'est la question. Et donc, c'était mon cheminement, moi, personnel, en tant qu'enseignante-chercheuse, donc dans un laboratoire qui fait de l'optimisation dans la décision, mais aussi de certains industriels. Donc, je parlerai des industriels, et ça aussi étonnamment, hein, et pas forcément des médecins ou quoi, mais j'ai eu à rencontrer des médecins qui ont la même réflexion. Donc là, je prends notre partenaire NTN, fabricant SNR, fabricant de roulements historiques à Annecy, qui lui se pose des questions parce que il a eu des soucis dans la mise en place de systèmes digitaux sur le bien-être des opérateurs, la démission de certains et donc cette gestion des risques éthiques. Et puis comme ils sont japonais, ça va bien avec leur esprit Nameraka, la société douce qui intègre l'humain. Donc lui se pose donc des questions. Il y a Toyota qui nous a bien précédé aussi en disant, ben voilà, nous on va créer un comité éthique, vous avez un numéro de téléphone si vous avez un souci, vous avez un conseiller. Et ceci dit, ça reste quand même très dirigé par l'entreprise. Alors, que pensons-nous de cette idée de dire, tiens, l'éthique va régler les potentiels risques que l'on peut rencontrer ? Eh bien voilà, nous quand on a fait nos petites enquêtes, il y a en général quatre grandes réactions. On a signé, il y a le règlement de la protection des données, il y a la RSE, donc c'est bon, il ne faut pas quand même se prendre la tête, il ne faut pas aller voir le mal là où il n'est pas. Ou alors, écoutez, c'est facile, hein, dès qu'on voit qu'il y a un problème, on fait l'alerte et puis ça va, on va le régler, il ne faut pas dramatiser. Pourquoi vous êtes là, vous êtes négatif à regarder? Et ça, c'est notre vécu, hein. Vous êtes négatif, vous êtes anxieux. Et puis non, mais de toute façon, c'est l'humain qui a tout créé. Pourquoi est-ce qu'il perdrait le contrôle? C'est n'importe quoi, mais non, pas du tout. Tout est sous contrôle, ce sont des algos. Ou alors, écoutez, le système est sûr, on a fait tous les tests, alors forcément, il est éthique. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, comment je répondrais si je devais répondre à cette question? Est-ce que l'éthique, ça vaut le coup de l'intégrer quand j'utilise l'IA ou pas? Ben, alors maintenant, ben c'est quoi ? Voilà, l'éthique par-ci, par-là, l'éthique par-ci, par-là. Et donc, c'est quoi l'éthique ? Alors, bien sûr, c'est l'éthique vue de mon point de vue à moi, qui suis epsilon, par rapport à tous les philosophes qui en ont parlé, hein. Donc forcément, pour le coup, je ne suis pas philosophe, mais je peux quand même reconnaître à tous ces grands philosophes d'avoir cherché à nous proposer aussi des définitions accessible. Déjà, la notion, elle est intuitive, on comprend bien, mais par contre, elle est intuitive, mais elle est bien, bien approfondie. Donc, depuis des siècles qu'il y a de la recherche et des débats sur l'éthique, c'est pas ici qu'on va l'éclore, hein, mais on peut dire que c'est un comportement qui est en accord avec les attentes culturelles d'une société. Alors, ça veut dire que je sois au Japon ou que je sois au Mexique, peut-être que l'éthique ne sera pas la même. C'est aussi, alors c'est celle-là qu'on utilise nous le plus, hein, ingénieur, parce qu'elle est assez facile, c'est une vie bonne, avec et pour autrui, dans des institutions justes. Et il y a aussi, quand on parle d'éthique, souvent on parle de vertu, donc c'est une force morale. On parle de vertu, on parle de morale, et donc l'humain tend à faire du bien. Alors, soit il suit une règle, soit il suit son cœur, soit il... Voilà. Donc, c'est ça, l'éthique. Donc, l'éthique, c'est plutôt quelque chose de positif pour l'humain. Alors, il y a des typologies, hein. L'éthique, elle s'applique à qui, l'éthique ? Eh bien, l'éthique, on a... Alors, je vais tenter. Voilà. Donc, on va pas confondre le comportement éthique du système artificiel. Ça, c'est tout à fait nouveau. Ça veut dire que c'est le machine ethics et il y a même des ouvrages droit et robot. Donc sur le droit, et ben oui, puisque maintenant les robots sont autonomes, eh ben eux aussi, ils ont un droit, des droits, ils ont un code de l'éthique, etc. Et c'est pour de vrai. Donc puisqu'il gagne en autonomie, ben, faut que je regarde ses droits. Après, il y a le comportement éthique de l'être humain. Et là, on a deux façons de voir. Éthique du citoyen, et là, c'est ce qu'on connaît. Quelle est mon éthique en tant que citoyenne, en tant que membre de cette société, en tant que membre de mon université? Ou alors, il y a l'éthique en interaction avec mon système artificiel. Comment est-ce que je suis en train de concevoir, d'utiliser mes systèmes-là? Et là, à chaque fois, donc, il y a des différences d'appréhension de cette éthique-là. On a aussi la question, c'est d'accord, donc c'est très philosophique et c'est le bien et pour tout le monde, mais l'idée, c'est comment je peux la rendre, nous, ce qu'on appelle opérationnelle. Concrètement, comment je peux être éthique concrètement, si ce n'est d'écouter mon cœur et de faire, mais qu'est-ce que c'est? Et donc, il y a eu déjà le phénomène du lanceur d'alerte et de la protection du lanceur d'alerte. Ça, c'était une victoire par rapport à l'intégration de l'éthique. Dès lors que le lanceur d'alerte ont été protégés, eh bien, il y a eu un pas d'opérationnalisation de cette éthique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les règles de l'éthique, ce qu'on appelle la déontologie, il faut qu'elle accepte de bouger. Puisque s'il y a un lanceur d'alerte qui va dire « attention, il y a un problème ici », eh bien, il y a une règle qui sera mise. Et à ce moment-là, la déontologie et son code, c'est quelque chose qui est assez compliqué à admettre, mais qui se fait maintenant, va aussi bouger. Alors, il y a aussi les paradigmes opérationnalisables, qui sont d'un côté la déontologie, l'utilitarisme et la vertu. Alors, je vais prendre le temps, juste ça, c'était un exemple qui me paraît assez illustratif. Si quelqu'un a besoin d'aide, bon, ça paraît évident, qu'il faille l'aider, en principe. Après, donc, que va dire un utilitariste? L'utilitariste, il va voir son utilité. Et donc, lui, il va dire, les conséquences de mon intervention auprès de cette personne-là sera un bien-être. Et son bien-être augmentera le mien. Et à ce moment-là, il faut y aller. Celui qui fait de la déontologie, hein, donc, on la doit à Kant, qu'est-ce qu'il dirait? Il dirait, il faut de toute façon agir en fonction d'une règle. La règle « fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse » s'appliquerait, et à ce moment-là, il faut y aller. Et la vertu, Aristote, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit si j'aide cette personne, eh bien, c'est que je suis quelqu'un de charitable et de bienveillant. Ça, on appelle à la vertu. Donc, finalement, l'idée, c'est de dire, quel que soit le paradigme de l'éthique, ça nous mènera, en principe, aux mêmes conclusions. Pas forcément de la même façon, pas les mêmes moyens. Il y avait à L'Oréal, dans une usine, il y avait un problème de ligne de production qui n'allait pas dans le bon sens. L'opérateur n'avait pas le droit, en principe, d'utiliser son téléphone portable pour répondre à la... C'était il y a longtemps, il y a moins d'une dizaine d'années, pour signaler le problème. Il n'a pas le droit au portable. Il l'a quand même fait, parce qu'il s'est dit, là, moi, en utilité... Il a été utilitariste. En utilité, c'est mieux que j'arrête la ligne, puisque là, on est en train d'aller à... on n'aura que des rebuts. Il a quand même été convoqué parce qu'il n'avait pas respecté le code déontologique du téléphone. Et après, il y a eu tout un remous chez L'Oréal et toute une discussion par rapport à cet aspect-là. Que faisons-nous? Le même cas s'est passé à l'hôpital. Où il fallait, donc toujours la même chose, est-ce que j'alerte ou pas, est-ce que je me mêle de la santé du patient d'à côté ou c'est pas mon problème et donc je n'en parle pas. Et donc c'est là où, selon ma vision, je suis utilitariste, je vois la conséquence. Je suis dans la morale et dans la déontologie, c'est pas mon affaire, je m'en mêle pas. Et chacun croit bien faire. Hein. Alors, rapidement, hein, déontologie, utilitarisme, le principe de la déontologie, c'est que j'ai une règle, c'est ce qu'on connaît le plus de l'éthique, une norme, un usage, et donc c'est souvent la loi. La loi et la déontologie. Et donc, par contre, ce qui peut se passer pour la déontologie, c'est qu'elle répond pas toujours à toutes les questions, ou alors elle arrive après coup, puisque la règle se fait après coup. Et l'utilitarisme, c'est qu'est-ce que je peux faire de mieux pour qu'il y ait le moins de dégâts. Comment je peux réagir au mieux? Je me fiche de la déontologie et j'y vais. Alors, ça marchera toujours, il y aura toujours quelque chose qu'on peut faire. Par contre, là, nos responsabilités peuvent être engagées. On n'est pas forcément protégé par les codes déontologiques par rapport à cette... Voilà. Donc ça, c'est deux approches qui nous intéressent de manière opérationnelle. Une nous permet d'écrire des règles. Ce sont des garde-fous, des bonnes pratiques. Et puis, comme ça, on se souvient pour mémoire, pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et l'autre, elle dit, eh ben, qu'est-ce que je fais ? Comment je peux faire pour que ce soit le moins pire possible, le moins grave, etc. Alors, par exemple, si je donne un exemple, un ingénieur ne doit pas concevoir un système qui dévoile ses données. Eh bien là, c'est quelque chose qui est du code moral. Donc ça, je l'ai. Par contre, de dire un robot ne peut pas blesser un être humain, d'accord, mais ça veut dire quoi ? Comment il sait, lui ? Comment je dois le... Donc ça, c'est une règle hein, aussi qui existe. Un robot est là pour nous faire du bien. Mais je ne sais pas la traduire en règle. Par contre, c'est du code de la déontologie. Un ingénieur choisit l'approche qui minimise tous les risques ou toutes les déviances vers les mauvais usages. D'accord ? Très bien. Comment je fais pour minimiser ces usages-là ? Un robot choisit toujours la décision qui minimise les risques de blessures. Et là, quand il a des dilemmes, comment il fait ? Est-ce qu'il blesse 3 ou 5 ? Il compte le nombre de personnes. Il y a eu des histoires comme ça avec les véhicules autonomes. Est-ce que je sauve le jeune ou est-ce que je sauve la personne âgée ? Est-ce que... etc. Donc là, il y a pas mal de dilemmes éthiques par rapport à ça. Donc c'est pour dire qu'on voit bien comment on l'opérationnalise, mais le terrain reste vierge. Alors on avance, il y a des choses qui sont faites, toutes les protections qu'on a actuellement, elles résultent un peu de ces réflexions, mais il reste encore des choses à faire. Donc là, c'est quelques questionnements pratiques, mais on y reviendra si c'est utile. Et puis maintenant, je voudrais parler de qu'est-ce qu'on fait, d'accord ? Donc, on a compris le besoin. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on veut faire de l'éthique dans nos systèmes, puisque pour pouvoir changer la société, il faut qu'on change le fonctionnement des systèmes. Eh bien, donc, là, je voudrais parler de... Parce que c'est un projet national qui a été financé donc par l'Agence nationale de la recherche, hein, qui nous a financé avec un laboratoire de Grenoble qui réfléchit sur l'éthique et de Valenciennes qui sont sur l'interface homme-machine et puis donc, moi, holistique. Et on a posé ce projet-là qui est en cours, Éthique 40, qui est disponible sur... Enfin, qui a une page LinkedIn, le site web et tout ça. Et en fait, l'idée, c'est de dire, eh bien, l'éthique, une manière de voir l'éthique, c'est de voir les risques éthiques. Donc, je vais me poser la question, quels sont les risques éthiques ? Un risque éthique, c'est quoi ? C'est quand j'observe une situation, je vais peut-être en déduire des risques. Donc, et on a un partenaire qui est donc l'entreprise NTN, anciennement SNR, qui est partie prenante. Et l'idée, c'est de développer un logiciel ou un outil pour pouvoir gérer ces risques éthiques. Donc, un état des lieux, finalement, on a bien des réglementations, mais soit elles sont très bas niveau, c'est les RGPD, la gestion des données, soit elles sont très haut niveau, c'est les règlements européens, politiques, gouvernementaux, etc. Et encore, on voit bien hein, l'usage de Google, l'usage de on n'est pas vraiment tellement protégé. Et puis, on fonctionne aussi par région. J'ai eu le plaisir d'aller au Canada faire ma présentation et en fait faire un parallèle. Qu'est-ce qui protège un citoyen canadien et qu'est-ce qui protège un citoyen canadien, américain du Nord et un citoyen européen ? Et la vision n'était pas tout à fait la même. Le risque n'était pas vu du tout pareil. La dynamique des innovations, elle est beaucoup plus rapide que celle des règlements. Les règlements, eh bien, on met beaucoup de temps pour qu'ils sortent. Nous, à l'université, on cherche à poser un règlement pour l'utilisation de l'IA générative, de ChatGPT, ben en attendant, les promos, elles passent. Mais hein. Nous, on est là, mais non, la charte doit venir du ministère, mais non, c'est le ministère qui doit valider avant que... Voilà. Donc, on en est là, il n'y a pas de charte, donc eux, ils en profitent bien. Et donc, ChatGPT fait les rapports. L'éthique, c'est quand même un concept philosophique, il faut être conscient que ce n'est pas si facile. C'est-à-dire, soit on la comprend, on prend le temps de la comprendre et ça prend toute une vie et après on ne sait pas l'opérationnaliser, ce n'est pas le but. soit on veut l'opérationnaliser en faisant des raccourcis et c'est pas le but non plus. Donc voilà. Donc on s'est dit, il y a quand même quelque chose qui pourrait se faire par rapport à ce concept-là. Et puis nos jeunes, donc nos étudiants, nos enfants sont attentifs à cette idée-là de dire on va travailler aussi sur une conception éthique, on va travailler éthique dans le sens où on va prendre soin de vous par rapport, et vous ne serez pas juste les esclaves de ces inventions. Donc c'est comme ça qu'on a dit, ben, on va gérer, équilibrer l'éthique et la performance. Parce que derrière l'éthique, il n'y a pas la notion de je ne fais rien. Ah, c'est dangereux, alors je ne fais rien. Non, je fais de manière à minimiser le risque, mais je fais quand même. Et ça, c'est important. Donc, on cherche la performance, on cherche les prouesses, on cherche les avancées, on cherche le confort. Mais il ne faut pas que quand même, après, on ne sache même plus utiliser son cerveau, qu'on soit frustré, qu'on soit démotivé ou qu'on soit en danger si jamais il y a un programme qui bug. Alors, donc là, il y a des exemples de situations vraiment vécues dans les entreprises. Hein. Il y a les activités des opérateurs qui font qu'on puisse récupérer leurs constantes physiologiques et qu'on puisse les vendre. Il y a on cherche à réduire tous les temps morts. On fait plus de pauses. Hein. On s'aligne un peu en robot, mais ça, c'est même pas que dans l'entreprise. Je passe d'une visio à l'autre. Je bouge plus là parce que je vais faire plein de choses en même temps. Je fais deux choses en même temps. Mon avatar, mon jumeau numérique, va aller à ma réunion. Ça c'est notre promesse. Hein. C'est que je serai à deux endroits. En même temps, mon jumeau numérique va se comporter comme moi, il va prendre toutes les données. Et puis, moi, je suis là. Donc voilà, ça aussi, c'est quelque chose qui est là. Toutes les activités sont mémorisées, donc à mon insu ou pas, etc. Donc, il y avait plein de choses qui disaient qu'il y avait quelque... En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est comment est-ce que je traite cette donnée-là qui est conséquente à toute cette utilisation. Il y a deux choses. Il y a si jamais ça ne marche pas, comment ça va marcher? Si ça ne marche pas comme j'ai prévu ou si je n'ai pas prévu cette situation, moi, en tant qu'humain. Et l'autre, c'est toutes ces données qui, aujourd'hui, valent une fortune. Comment est-ce que je m'en protège? RGPD va bien, mais pas sur tous les niveaux, pas sur tous les plans. Donc, quelles règles? Alors, nous, on a dit, ben voilà, quelles règles éthiques pour gérer les interfaces et quelles règles éthiques pour piloter la performance? Et on fait des choses comme se montre ce tableau. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux opérateurs impliqués, aux médecins, peu importe les personnes, tu sens quelque chose ou tu as un inconfort, eh bien, on va tenter de formuler le risque, de formuler les événements qui, selon la personne, sont à l'origine du risque. On va l'exagérer pour voir jusqu'où il y a un danger. Et puis après, on va voir comment est-ce qu'on peut le détourner. Donc ça, c'est la gestion des risques classiques. Et puis après, ça va faire que, par rapport, on va proposer des règles ou faire de cette une analyse de what if, là, c'est-à-dire la conséquence de mes actions. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place de plus en plus chez nos partenaires, typiquement industrie et médecine pour le moment. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On dit philosophiquement, attention, il faudrait voir un peu cette performance-là. La performance, on nous a dit, il faut être efficace, il faut atteindre des objectifs, il faut être rentable. Il faut les atteindre, mais avec le moins de ressources possible. Et puis, il faut que ces objectifs soient pertinents. Sinon, ça va pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de la performance. Et bien, petit à petit, on dit oui, mais d'accord. Mais si on pouvait le transformer en tétraèdre et rajouter l'éthique pour colorer tous les autres. Et si on faisait un peu comme le développement durable, mettre l'éthique au centre avec la performance et voir. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a. Et derrière ces réflexions-là, il y a des modèles qui sont développés donc avec l'éthique vue comme une fonction, vue comme un calcul, vue comme une maturité, un label, etc. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On se questionne, on débat, puisque c'est l'affaire de tous, pas juste celui qui dit tiens, moi je vais faire de l'éthique. Hein. Donc là je transmets un débat qui avait eu lieu. Alors il y en avait un qui avait eu lieu à Annecy, un autre, ça je ne sais plus dans quelle ville c'était ça. Sa Jeep, j'ai oublié. Donc ça c'était, voilà, et puis donc on a un système de post-it, on a une méthodologie, on explique un peu tout le principe de notre travail, on pose quelques questions Par exemple, est-ce que performance et éthique sont, comment vous les voyez, antinomiques, vont dans le même sens? Par exemple, est-ce que vraiment il y a des risques éthiques quand on cherche sans arrêt à optimiser la performance? Comment je pourrais la mesurer? Donc là, il y en a un qui m'a dit, ben, tout simplement le bonheur national brut, etc. Et donc après, on fait des synthèses qu'on dépose sur HAL, donc une bibliothèque ouverte, hein, pour que les, pour qu'on avance tous ensemble. Donc à chaque fois, voilà, il y en a un tous les ans, tous les 6 mois, 8 mois, où il y a quelqu'un de nous qui vient débattre sur le sujet. Voilà, donc moi ce que j'aimerais dire pour conclure, je ne sais pas quelle heure il est, je me disais. Voilà, bon, donc pour conclure, il y a de nouveaux terrains de recherche, c'est un renouveau, ce n'est pas parce qu'on fait de l'éthique qu'on ne fait rien. Ça, je voudrais insister, on fait autrement. Il faut quand même vaincre la résistance au changement. Oh, c'est que je vais rentrer dans quelque chose de différent. Et il faut vaincre l'idée, ça ne me concerne pas. C'est les philosophes, c'est compliqué pour moi. Et puis donc, ça nous fait tous sortir de notre zone de confort. Et puis, voilà. Et en particulier pour nous qui sommes à l'interface avec les étudiants que nous formons, de pouvoir intégrer et de leur parler de ces notions-là. Voilà, donc c'est un terrain qui est vierge, c'est un terrain moi qui me passionne personnellement, où tout est possible, et puis c'est notre affaire à tous. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Lamia Béra. C'était passionnant, très riche, mais il nous reste encore un tout petit peu de temps pour des questions. Je pense qu'il y a eu beaucoup de réactions par moment, donc je pense que ça a dû ou ça va générer quelques remarques, soit quelques questionnements par rapport à ce que vous avez dit sur l'éthique et l'IA. Je vous passe le micro parce que on entend mieux.
C'est une super question. Je disais, est-ce que l'IA ne peut pas nous aider justement à obtenir cette éthique? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, l'IA, selon comment on l'utilise, elle peut répondre. Donc, comment on est en train de faire actuellement? Déjà, l'IA générative, elle nous fait l'état de l'art de tous les codes et toutes les règles qui sont là. Elle fait l'état de l'art de tous les risques. Donc déjà, l'IA apporte tout le contenu. Après, l'IA ne va pas répondre à le comment faire réellement, mais aujourd'hui, ça peut être un fabuleux outil. Et puis, de standardisation. Si on l'intègre dans l'IA, si l'IA s'en empare, et donc il y a des travaux sur... Alors, il y a des travaux sur l'IA éthique, l'IA frugale, l'IA... Et donc, il fait au moindre coût environnemental en touchant le moins possible à l'humain. Donc ça part beaucoup des bases de connaissances qu'on a et de sa manière de gérer les connaissances. Et l'IA va faire plus que ça. Je dis, elle ne va pas donner les solutions quand même. Si, elle va interférer tout ce qui peut se faire dans d'autres domaines, comme dans la sécurité, le safety, l'ergonomie, et le transposer à l'éthique, tout à fait. Par contre, il faut que l'humain suive quand même ce que fait l'IA. Parce que s'il commence à dire « ChatGPT va me faire mon truc », c'est bon, on revient, on redevient. En fait, l'idée derrière ça, c'est que tant qu'on a un usage conscient de l'IA, tout va bien. C'est que si on est à côté, en parallèle, et qu'elle fait ce qu'elle a à faire, moi, je ne m'inquiète pas pour l'avenir de l'IA en tant que telle, hein.
Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez sur les jeunes et l'utilisation de ChatGPT. Est-ce que justement la nouvelle génération n'est pas dans une utilisation de l'IA sans réfléchir, sans réflexion derrière et en pensant que tout est vrai, tout est juste?
Alors, moi, de mon ressenti, oui, ça serait la tendance. Donc, ce que nous faisons en cours, c'est que moi, j'organise à chaque fois, en tout cas, un débat sur son utilisation et puis des cas contraires. Quand est-ce que là, c'est très bien de faire un prompt et on a une réponse qui est bien? Quand est-ce que là, c'est pas bon et qu'elle vous mène vers un lien qui n'existe pas, vers une information qui n'existe pas? Mais ils auraient tendance à dire l'IA, c'est mieux que l'humain. Et donc, petit à petit, un prof, ça va passer à la trappe, hein, ça aussi. Hein. Et puis, il y a cette question de... l'information m'arrive très vite quand je la veux. J'ai pas besoin qu'elle me saoule avec 3 heures de cours sur l'IA, le risque et tout, alors que je vais demander tout de suite à Chat, c'est Chat, hein, c'est même pas GPT, c'est Chat, je demande à Chat, il me donne vite la réponse. Donc, et malheureusement, nous, on est un peu encore en retrait, on ne sait pas former au bon usage de Chat GPT. Et les industriels viennent nous le demander, tous les services hein, viennent demander, mais formez-nous des ingénieurs ou des cadres qui savent utiliser l'IA. Et c'est là où on est en retard, la réponse en réglementation, en cours, en formation. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est que chacun fait comme il sent. Donc moi, j'aime bien débattre. Je dis, mais alors, dans quel cas ça a marché? Est-ce que toi, ça a marché tout le temps? Alors pour ces questions-là, tu as vraiment besoin de ChatGPT pour savoir comment tu vas rencontrer quelqu'un ou ton avenir? Et on débat. L'université étant ce qu'elle est, on n'a pas beaucoup les moyens, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, et donc c'est un autre débat aussi, mais c'est vrai.
Et puis vous êtes déjà loin, les jeunes sont déjà âgés. Aujourd'hui, il faudrait le faire en maternelle, peut-être
tout
pas,
à
mais
fait.
En,
tout à fait.
En primaire,
si,
quand même,
on voit
faudrait
les gamins,
déjà en parler
sont
tout
là,
de suite.
Et mmh. si, je suis tout à fait d'accord. Et plus la conscience sera grande, moins on aura après à se poser la question. Parce que derrière l'IA, il y a ces jeunes-là aussi qui sont pour le ah oui, je vais récompenser moi mon algo, il m'a donné la bonne solution. C'est l'apprentissage par renforcement. Si on choisit une voie plutôt que l'autre, alors on dit qu'on récompense. Mais en fait, ça veut dire qu'on montre que c'est la bonne voie. Ah oui, ben là, il a une récompense top. Hein, bon, on parle d'un algo quand même. Hein.
Alors moi, je suis surtout soucieuse de tout ce qui va être fait des requêtes justement qu'on formule à chacun chez soi, à notre chat GPT.
Alors, je crois que ce qu'il faut savoir, donc déjà, il y a un coût énergétique qui est assez important, mais il y a surtout que c'est une capture des données.
Mais c'est ça.
Eh oui. Et donc, quand on est dans l'instantanéité, à se dire, moi, j'ai besoin de quelque chose, je demande vite, et puis j'ai la réponse, on ne voit pas l'impact. Et c'est là où on a besoin de montrer que, finalement, cette donnée-là, voilà son cheminement. C'est qu'elle va être... Et les entreprises, pourquoi elles sont plus conscientes? Parce qu'elles... Elles partagent des informations avec leurs fournisseurs, avec leurs concurrents, et puis elles retrouvent les données ailleurs. Et donc, c'est vrai que c'est un vrai souci. Alors, les outils d'IA générative prétendent une protection des données, mais non, ce n'est pas vrai, puisque c'est ouvert. Ce n'est pas possible. Par définition, ça n'est pas possible.
Et pour terminer, je voudrais également, enfin, sans être opposée donc, aux nouvelles technologies, etc., je me pose quand même la question de... Que vont devenir l'humain à terme?
Oui.
Parce que si, à la vitesse galopante où on avance, qu'est-ce qu'on va faire demain?
Voilà, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est la question. Après, je suis optimiste, je me dis ça dépend de chacun un peu aussi, un peu de nous, mais pas que, c'est vrai. Mais c'est vrai. On y va très vite. Et c'est ça, en fait, c'est ça le point de cette avancée. La machine à la vapeur n'a pas fait peur. On a pris le temps, on a compris, on l'a maîtrisée.
On est à l'ère de la mondialisation. Pardon, j'ai pas vu. Bon, je pose la question du coup. On est à l'ère de la mondialisation. L'éthique, on se rend compte, et vous l'avez évoqué avec le Japon, c'est assez propre aux cultures.
Oui.
Alors, comment finalement, dans ce contexte, avoir une éthique commune?
Alors voilà, et ben c'est pour ça que les approches là de l'utilitarisme, ça sera l'approche qui sera la plus standard possible puisque elle va quantifier des apports. Mais je pense qu'il faut renoncer à une définition universelle. À mon avis, que chacun ait déjà son code de l'éthique. Ça, en tout cas, par rapport à... On voit bien, on a des étudiants qui viennent de partout. On demande à quelqu'un, un étudiant chinois, de répondre à une question. Il faut savoir comment la lui formuler. Et moi, je n'ai pas su tout de suite, je n'ai pas compris ça. Il ne faut pas l'offenser, faut pas... Ça, c'est des codes que l'on n'a pas. Alors, nous, on fait partie de UNITA, l'Université Savoie-Mont-Blanc. C'est une université européenne. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître. Mais après, ça devient un vrai bazar parce qu'on est les 7 ou 8 universités, plus les universités américaines. Mais l'idée, c'est que je pense que c'est une des difficultés. C'est que le code de l'éthique n'est pas le même selon les cultures. Et ça, donc, ce serait bien qu'il y ait des codes un peu voilà, universels pour ces algos et ça serait l'approche utilitariste qui pourrait y répondre. On pourrait revenir sur la question de l'humain derrière l'IA.
Oui, ah bah oui.
Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qui est une des réactions qu'ont les ingénieurs. Alors, je dis ingénieurs, ça veut dire les développeurs hein, et les chercheurs. Mais à un moment donné, on ne mesure pas ce qu'on est en train de proposer. C'est ça. En fait, l'humain, il y a un humain toujours derrière. À un moment donné, on m'avait dit, quand tu utiliseras ChatGPT, il faut dire bonjour. Bonjour, bonjour, parce qu'il y a quelqu'un au bout et il faut le remercier. Oui, certes. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est l'humain qui contrôle cette complexité? Non. Et en fait, il n'a pas besoin de la contrôler tant qu'il a la garantie de l'output qu'il a. Mais s'il a une sortie qui n'est pas celle qu'il n'avait jamais prévue, ça devient complexe. Je ne sais plus si vraiment l'humain est derrière tout maintenant et qu'il a les clés de tout ce qu'on est en train de faire.
S'il n'y a plus de questions, on vous laisse le mot de la fin pour un message à retenir sur ce sujet de l'intelligence artificielle et de l'éthique.
Moi, je voudrais déjà vous remercier de m'avoir écouté. J'espère vous avoir un peu transmis un peu ce que le peu que je sais. Vraiment, c'est quelque chose qui est vaste, qui est accessible à tous. Et j'ai envie de dire qu'il y a quand même un message d'espoir tant que l'humain se pose des questions. Enfin, d'espoir et d'aller de l'avant. Je pense qu'on est maintenant très nombreux à ce qu'on disent les anglo-saxons ethics aware. Et donc, à mon avis, on saura faire de la société ce qu'on aura envie de faire. Mais c'est vrai qu'il est urgent qu'aujourd'hui, tout le monde s'y penche d'une manière ou d'une autre. Voilà ce que je pourrais dire.
La Biera, il ne me reste plus qu'une chose, c'est à vous remercier au nom de tout l'auditoire.
Merci beaucoup.
Merci infiniment d'avoir fait cette présentation et répondu à nos questions.
Merci.
Avant de vous laisser peut-être déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps, deux informations. Ce soir au Café des Sciences à la MJC, on continuera à parler d'intelligence, et là cette fois-ci avec un S. Et le prochain rendez-vous d'Entre Midi des Sciences, n'hésitez pas à prendre le petit programme et à l'épingler, ou plutôt à l'aimanter sur votre frigo, traitera de la proprioception, autrement dit notre sixième sens. Voilà, merci et à très bientôt. Et ce week-end, la fête de la science, dont le village se situera dans la médiathèque et à la galerie Eureka. Vous pouvez également prendre un programme avant de partir ou sur la table. Merci à vous.